Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, quel avenir pour les chrétiens d'Orient? Pourchassés, maltraités, assassinés ou simplement contraints à l'exil, leur sort est de moins en moins enviable. Avec Jean-Michel Cadio, journaliste qui connaît bien cette région pour y avoir été en poste longtemps et dont le dernier ouvrage est consacré aux chrétiens de Mossoul en Irak, nous verrons s'il reste, en cette semaine de Noël, des raisons d'espérer. Nous entendrons également Alexandre Bouchianti nous expliquer comment se porte la forte communauté chrétienne d'Égypte et pas seulement les Coptes, même si ces derniers constituent une forte minorité dans le pays. Enfin, nous n'oublierons pas les chrétiens d'Israël et de Palestine, la terre qui a vu naître le Christ, une communauté en constante régression, nous dira Michel Paul depuis Jérusalem.
Orient Hebdo sur RFI.
Malheureusement, les vagues de réfugiés continuent à arriver de l'Irak surtout. Et cette fois-ci, ils arrivent du nord de l'Irak. Ils se sentent menacés, alors ils commencent à se réfugier en Jordanie. Pour le Moyen-Orient, la chrétienté passe une étape difficile.
Khalil Jahar, un religieux chrétien qui s'exprimait lors du voyage du pape François en Jordanie fin mai. On aura noté avec ce témoignage que le chef des catholiques de Rome souhaitait rencontrer des chrétiens d'Irak et de Syrie, mais aussi des musulmans tout autant chassés de chez eux par les groupes islamistes radicaux. Cet œcuménisme papal se retrouve quelques jours plus tard avec la cérémonie du Saint-Sépulcre à Jérusalem, cérémonie pour la première fois commune à tous les chrétiens de la région et pas seulement réservée aux catholiques romains. Fin novembre, le pape est en Turquie. Là, il dénonce les extrémismes qui instrumentalisent les religions et mettent en péril la présence même des communautés chrétiennes les plus anciennes dans la région.
Nous ne pouvons pas nous résigner à penser à un Moyen-Orient sans chrétiens qui, depuis 2000 ans, confessent le nom de Jésus. Les derniers événements, surtout en Irak et en Syrie, sont très préoccupants. Il me semble que la conscience de la valeur de la vie humaine soit perdue. Il me semble que la personne ne compte pas et qu'il est possible de la sacrifier au détriment d'autres intérêts. Et ceci, malheureusement, dans l'indifférence totale.
Jean-Michel Cadio, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez longtemps travaillé à l'agence France Presse ainsi qu'à Témoignages Chrétiens. Alors nous avons entendu le pape François en visite en Turquie fin novembre affirmer qu'il n'envisage pas un Moyen-Orient sans chrétiens. A-t-il raison d'affirmer cela ?
Ben, il a tout à fait raison parce que le christianisme est né, a pris racine et a commencé à se répandre en Orient. Il est inconcevable que le christianisme disparaisse du Moyen-Orient et de l'Orient en entier d'ailleurs. Et il a fait cette belle déclaration avec le patriarche Bartholomée qui est le chef spirituel de l'Église orthodoxe, qui est une composante bien sûr très importante de l'Église.
Alors, les textes bibliques nous rappellent que Jésus est né et a vécu en Palestine. Est-ce que les chrétiens ont essaimé partout au Moyen-Orient à cette époque ?
Tout de suite, ils ont essaimé au Moyen-Orient. La première église, on peut dire, c'est celle de Jérusalem, puis l'église d'Antioche. Et puis à partir de là, des chrétiens sont allés dans différentes contrées. Saint Paul est allé en Grèce, puis à Rome avec Pierre. Mais dans le même temps, Marc est allé en Égypte. En tout cas, selon la tradition, le fait est que les chrétiens, qu'on appelle les Coptes, sont nés tout de suite en Égypte. Et puis également, dans ce qui est l'Irak actuel, il y a eu Thomas et Jude, enfin en tout cas l'apôtre Thomas, qui est allé dans ce qui serait l'Irak actuel et l'Iran très très vite. Il est même allé en Inde d'ailleurs. Donc les chrétiens, dès le 1er siècle, ont essaimé et ont pris une très grande dimension dans tout le Moyen-Orient.
Alors, combien sont-ils aujourd'hui et où les trouve-t-on majoritairement ?
Bon, il y a énormément de chiffres qui circulent. Moi, dans mon livre, j'ai fait une comptabilité, je crois, assez sérieuse. J'estime qu'il y a environ 105 millions au total de chrétiens d'Orient. Mais il faut compter que beaucoup sont dans la diaspora, sont exilés, malheureusement, ont dû quitter le pays. Donc il y a eu à peu près 100 millions, ce qui est une force très importante. Les plus importants sont les Éthiopiens. Les Éthiopiens qui sont dérivés des Coptes, qui sont des chrétiens également, donc venant au départ christianisés par Saint Marc. Mais il y en a aussi beaucoup en Liban, au Syrie, en Égypte, bien sûr, la plus importante du Moyen-Orient. En Iran, il en reste une communauté, puis en Inde, qui n'est pas le Moyen-Orient, on a 10 à 15 millions.
Alors, est-ce qu'ils forment une communauté homogène ?
Actuellement, ils ont tendance à devenir une communauté homogène par la force des choses, mais non, ils ont été séparés déjà dans deux conciles très importants. En 321, quand il y a eu le concile de Nicée, ils se sont tous réunis. Et puis, par deux conciles importants, concile d'Éphèse et concile de Chalcédoine, au 4e et 5e siècle, ils se sont séparés, ils sont toujours pas réunis. Il y a donc les Nestoriens, ceux qui sont allés en Irak et en Iran, Mésopotamie, il y a qui sont séparés à Éphèse, qui considèrent que Marie n'est pas la mère de Dieu, mais la mère du Christ. Il y a eu les Coptes, qui également sont une autre tendance, qui se sont séparés plus tard. Les Arméniens aussi se sont séparés. Il y a ce qu'on appelle les Syriaques. Il y a beaucoup de branches, mais dans ces branches, beaucoup ont rejoint aussi le catholicisme, se sont ralliés à Rome dans les 500 dernières années, suite aux missions, suite à des rapprochements, en particulier politiques aussi d'ailleurs avec la France. Donc, ils restent séparés, mais ils sont tout de même fondamentalement unis, en particulier dans les souffrances actuelles qu'ils connaissent. Puis il y a aussi les orthodoxes, alors c'est autre chose, les orthodoxes séparés au 11e siècle, qui sont aussi très présents, bien sûr, en Syrie, ils sont majoritaires, par exemple. Ceux-là aussi sont, tout en étant séparés, dans la réalité humaine, sont très très proches.
Alors, dans un précédent livre que vous avez publié en 2010 sur les chrétiens d'Orient, vous exploriez leur vitalité, leur souffrance et leur avenir. Tout d'abord, les communautés chrétiennes du Moyen-Orient font-elles preuve de vitalité aujourd'hui ?
Dans la mesure du possible, oui, elles font énormément preuve de vitalité. Elles se battent pour résister à une tentative, effectivement, de marginalisation et de nombreuses difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Alors bon, ils sont beaucoup moins nombreux qu'il y a un siècle ou deux, mais ils continuent à vouloir s'exprimer, à vouloir les visites du pape, que ce soit en Palestine, en Israël ou récemment en Turquie, le montrent. Les chrétiens sont extrêmement désireux de rester sur leur terre, même si dans la réalité, beaucoup ont, comme l'avait fait d'ailleurs la Sainte Famille, obligés de s'exiler, souvent pour toujours, alors que normalement ça devrait être quelque chose de provisoire. Ils sont actifs, ils essaient d'avoir des journaux, ils essaient de s'exprimer politiquement, malgré la répression dont ils sont victimes.
Politiquement, par exemple, en Égypte, qui est l'un des cas peut-être les plus emblématiques.
Alors en Égypte, où ils sont très nombreux, hein, ils sont entre 5 et 10% de la population, ils ont essayé de peser sur la révolution, ils ont essayé de peser sur les bouleversements qu'il y a eu après, contre les frères musulmans, là ils ont été clairement contre Morsi, enfin on peut dire, ils sont situés politiquement, ils ont quelques figures emblématiques aussi, et ils sont en tout cas dans la vie sociale extrêmement présents.
Pourquoi les chrétiens dans cette région-là aujourd'hui sont-ils pourchassés? Sont-ils persécutés? Ce sera d'ailleurs le titre d'un livre que l'on évoquera dans un instant. Est-ce qu'ils le sont pour des raisons religieuses ou au contraire pour des raisons politiques, ou voire militaires?
Bah, disons, depuis que cette région est tout de même fortement, très majoritairement islamisée, c'est-à-dire au premier siècle de l'islam, et puis après, quand les Turcs ont pris Constantinople, les chrétiens avaient un statut à part, de timitude en général, où ils étaient, moyennant un impôt, respecté, certes, mais leur l'accès à des fonctions très importantes leur était généralement refusé. Alors, ils sont persécutés parce que l'islam leur a pas laissé toute leur place. Ça n'a pas toujours été le cas sous les califats abbassides. C'est pour ça que ce qui est fait actuellement par ce calife à Mossoul est extraordinaire, ne correspond pas du tout à ce qu'était la politique des califes
abbassides de Bagdad.
À Bagdad, absolument. Donc, ils ont été persécutés, on peut dire. D'abord, ils ont été persécutés d'abord par Rome, par l'Empire romain. Ça, c'est la pire persécution pendant 3 siècles. Ensuite, ils ont été persécutés par les Persans. C'était une période de grands martyrs. Ensuite, ils ont été souvent persécutés par certaines dynasties arabes, comme les Fatimide, c'est sûr, le Saint-Sépulcre qui avait été complètement dévasté au 11e siècle. Ils ont eu après des périodes très très dures, comme on le sait, le génocide arménien en 1914, de 1916, enfin 1917, 1918, c'était épouvantable. On sait qu'un 1,5 million, près de 2 millions d'Arméniens et d'autres chrétiens ont été massacrés, puis en 1933. Et puis l'exil des Palestiniens est une très grande persécution aussi, avec la création d'Israël. Puis également la guerre d'Irak de 2003, qui a fait que la moitié, ou même les 2/3, si ce n'est les 3/4 des Irakiens, en 10 ans, ont dû prendre le chemin de l'exil suite à la guerre religieuse interconfessionnelle chiite, sunnite, qui s'est créée en Irak.
Et aujourd'hui, justement, l'Irak, avec l'offensive de l'organisation État islamique, notamment sur la région de Mossoul, la région de Ninive, où les chrétiens ont toujours été extrêmement implantés depuis les premiers siècles. Et vous publiez un ouvrage en ce moment qui s'appelle « Noun, chrétiens de Mossoul persécutés ». Vous craignez pour cette communauté, là, précisément?
Ce qui s'est passé à Mossoul le 10 juin, puis le 7 août 2014, l'année qui s'achève, est quasiment sans précédent. Là, tous les chrétiens et toutes les autres minorités, tous ceux qui ne sont pas des Arabes sunnites, ont été soit massacrés, soit contraints à l'exil. Les chrétiens ont réussi à partir, d'abord dans la vallée de Ninive, comme vous dites, où il y a 13 villages chrétiens depuis toujours. Et puis, le 7 août, ils ont été là, l'État islamique, ce fameux califat, a contraint tous les chrétiens, sauf à mourir, hein, à partir vers d'autres régions, alors dans le nord de l'Irak, à Erbil, dans d'autres villes d'Irak, ou en Turquie, ou même en Syrie, bizarrement, où certains essayent de venir en France, en Australie. Mais ce qui est arrivé est absolument sans précédent, et il n'y a plus du tout de chrétiens à Mossoul, il n'y a plus de présence chrétienne. Il n'y en a plus non plus dans la ville de Ninive, sauf deux villages qui ont réussi à soit revenir, soit à se défendre. Et toutes les minorités également, les yézidis sont des massacrés, les femmes sont vendues comme esclaves sur les marchés. Enfin, c'est une situation vraiment effrayante dont je crois la mesure n'a pas été prise par les pays.
Quelle menace représentent-ils réellement, ces chrétiens locaux?
Ils ne doivent pas exister pour ce fameux al-Baghdadi, qui pourtant les connaissait, pourtant est un Irakien cultivé. Il sait bien tout ça, il est un homme cultivé, mais il a une idéologie ultra-salafiste, absolument délirante, où il prend certains passages du Coran qu'il interprète d'une façon complètement aberrante. Pour lui, aucune présence chrétienne n'est possible, aucune église, et quand vous parliez de Ninive, même le mausolée de Jonas, qui est un prophète biblique vénéré, qui fait toute une sourate du Coran tout de même, qui est considéré par le Coran comme quelqu'un de très saint, et qui est pour les chrétiens un peu la préfiguration du Christ, puisqu'il a vécu 3 jours dans une baleine et qu'il en est sorti comme la résurrection. Il n'admet pas ce mausolée, cette mosquée sunnite. Il a détruit également les mosquées sunnites, et il a tout détruit, il a contraint les femmes à porter la burqa ou le niqab, et il n'y a plus de vie sociale quasiment à Mossoul. C'est vraiment quelque chose d'épouvantable auquel il faut absolument mettre fin, parce que c'est sans précédent.
Merci Jean-Michel Cadio. Je rappelle votre dernier ouvrage qui sort en ce moment, en cette fin d'année, Noun, chrétien de Mossoul persécuté.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour parler des communautés chrétiennes. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alexandre, l'Égypte compte aujourd'hui la plus grande population chrétienne du monde arabe, des chrétiens qui fêtent évidemment Noël, même si c'est en rang dispersé.
Oui, le 25 décembre, c'est Noël pour les protestants, les catholiques et les grecs orthodoxes. Alors ces derniers sont divisés entre grecs orthodoxes originaires de Grèce et grecs orthodoxes arabes originaires du Levant, c'est-à-dire la Syrie, le Liban et la Palestine. Certaines de leurs quelques dizaines d'églises, au Caire, à Alexandrie, dans le Delta et sur le mont Sinaï, remontent à l'Empire byzantin. Ils ne sont que quelques dizaines de milliers. Les catholiques sont, eux, estimés à 300 000. La majorité sont coptes catholiques, tandis que les autres viennent du Levant, de Mésopotamie et d'Europe. Ils ont fêté Noël dans quelques 200 églises de tous les rites situées un peu partout en Égypte. Mais les plus nombreux sont les protestants. On les estime à 700 000 et ils disposent d'un millier d'églises. Il s'agit de chrétiens égyptiens convertis au 19e et 20e siècle à différents rites protestants.
Et la Noël des coptes orthodoxes, Alexandre, des coptes qui constituent l'écrasante majorité des chrétiens égyptiens.
À cause d'une confusion de calendriers julien et grégorien, les coptes fêtent Noël le 7 janvier. Depuis 2002, le 7 janvier est un jour férié pour tous les Égyptiens, alors que ce n'est pas le cas pour le 25 décembre. Les coptes orthodoxes, estimés à 8 millions, fêteront Aïd el-Milad dans quelques 1200 églises. Un Noël qui sera sous haute surveillance sécuritaire, à cause de la menace d'attentats islamistes. Rappelons qu'une soixantaine d'églises coptes ont été incendiées et pillées par des partisans du président frère musulman Mohamed Morsi au lendemain de la dispersion sanglante du sit-in de Rabat au Caire en août 2013. On estime à 300 000 les Coptes qui ont émigré d'Égypte depuis la destitution du président Hosni Moubarak en 2011. À partir des années 50, les Coptes ont commencé à adopter les coutumes occidentales du sapin et de la crèche de Noël. D'ailleurs, le Père Noël est connu de tous les Égyptiens, chrétiens et musulmans, sous le nom de Baba Noël, que l'on retrouve dans toutes les vitrines des bons commerçants.
Alexandre, qu'en est-il du Soudan, l'ancienne Haute-Égypte, qui compte une très importante minorité chrétienne ?
Ils étaient près de 8 millions avant l'indépendance du Sud-Soudan en 2011. En dehors de quelques centaines de milliers de Coptes orthodoxes venus d'Égypte, ils ont fêté Noël le 25 décembre. Ils sont catholiques ou protestants. On estime à près d'un million les chrétiens au Nord-Soudan, des chrétiens victimes de tracasseries diverses et dont beaucoup cherchent à quitter le pays.
Michel Paul, en Israël, le gouvernement envisage de renforcer le caractère juif de l'État. Un projet de loi est en débat à la Knesset, le Parlement israélien. Déjà, des opposants dénoncent les conséquences catastrophiques pour les non-juifs, les musulmans, mais aussi les chrétiens.
Les chrétiens israéliques, on peut dire que c'est une histoire qui remonte à la nuit des temps. Le christianisme a bien sûr son berceau dans ce qui est Israël et les territoires palestiniens aujourd'hui. Après tout, Israël est un pays où chaque centimètre carré de terre porte plus que son poids de vestiges archéologiques, souvent propres aux trois religions ensemble. Pour les chrétiens donc, mais aussi pour les juifs et pour les musulmans. Et cela, bien sûr, ouvre la porte à toutes les frictions. Alors on parle surtout du conflit israélo-palestinien, mais même si elle est moins médiatisée, la confrontation entre juifs et chrétiens est bien présente, que ce soit dans les rues de Jérusalem, ou dans les monts de Galilée, ou encore sur les bords du lac de Tibériade, autant de sites où s'est développé le christianisme. Des extrémistes israéliens se sont directement attaqués récemment à des ecclésiastiques, et des actes de vandalisme ont été menés contre les lieux du culte.
Quelle est, Michel, la densité de cette communauté chrétienne aujourd'hui ?
Alors, selon les dernières statistiques, 161 000 chrétiens vivent en Israël, soit environ 2% de la population totale en Israël, et 80% d'entre eux sont ce qu'il est convenu d'appeler des Arabes israéliens. Les autres sont pour la plupart des immigrants, en majorité de l'ex-URSS, venus s'installer en Israël dans le cadre de la loi du retour avec leur famille. Il existe quelques milliers de réfugiés en provenance généralement d'Afrique. Ces chiffres ne comprennent pas les populations chrétiennes habitant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où le dernier recensement date de 1967. La population chrétienne de ces régions était à cette époque estimée environ 33 000 personnes. À noter, Eric, que ces chiffres sont en constante baisse. L'émigration des chrétiens de Terre Sainte en raison de la situation dans la région est un phénomène qui existe depuis longtemps et qui va en s'amplifiant.
Et puis, Michel, il y a aussi une multitude de sous-catégories de chrétiens qui ne s'entendent pas toujours très bien.
Les communautés chrétiennes se divisent en effet en quatre catégories de base, les orthodoxes, les non-chalcédoniens, dits monophysites, les catholiques, latins et uniates, et aussi les protestants. Alors ceci consiste en 20 anciennes églises locales et 30 nouvelles constituées de dénominations issues du protestantisme. À l'exception des églises nationales comme l'église arménienne, les communautés locales sont pour la plupart de langue arabe et ce sont certainement les descendants des premières communautés chrétiennes de l'époque byzantine.
Michel, quels sont les rapports entre Rome et Israël ?
Ce n'est qu'en 1993 que le Vatican a finalement reconnu Israël. Les relations entre les deux États connaissent des hauts et des bas, notamment sur la question de la gestion des lieux saints. Israël brandit régulièrement la menace d'annuler l'exonération d'impôts dont jouissent les églises en Israël. Par contre, relations au beau fixe avec les églises évangélistes américaines qui, pour la plupart, optent pour des positions qui les situent à la droite et même à l'extrême droite de la classe politique israélienne. Mais les différends demeurent en Israël même. Les chrétiens israéliens, souvent en conflit ouvert avec les Arabes musulmans, se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Et l'idée avancée par les autorités israéliennes de leur proposer un service national au lieu du service militaire dont ils sont dispensés pour permettre une meilleure intégration au sein de la société israélienne est rejetée par la grande majorité d'entre eux.
Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo a été réalisé comme chaque samedi par François Porcheron. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook ou podcastez-la sur le site www.rfi.fr. En attendant, passez une bonne semaine et un bon réveillon à l'écoute de RFI.